Bonjour à tous, vous allez bien ce soir?
Oui.
C'est bien, gloire à Dieu. Eh bien, nous allons étudier la parole de Dieu encore ce soir. Enfin, c'est une étude ce soir. Je vous demanderai de prendre Philippiens 2.12 avec moi. Philippiens 2.12. Alors, on va saluer nos frères et sœurs du Burkina. Hein, que Dieu les bénisse. Amen.
Amen.
Gloire à Dieu, c'est bon. Là, j'y suis dans quelques jours. Je pars, on est là vendredi, je pars mardi. Au chaud, hein, là, on se met des petites laines. Là-bas, il fait chaud. Philippiens 2.12. Je lis. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Je ne suis pas encore absent. Mais je vais au Burkina dans 3-4 jours et je vous demanderai de travailler à votre salut avec crainte et tremblement, hein, comme quand je suis là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un jour, un homme était allé chez le coiffeur. En fait, c'était moi. Je vais chez le coiffeur. Et puis, il y avait un monsieur qui était là à côté et qui parlait avec un autre coiffeur et puis il parlait de la pluie et du beau temps. Vous savez comment on parle chez les coiffeurs. Enfin, je ne sais pas en Afrique comment ça se passe, mais en France, les coiffeurs, on parle beaucoup, on raconte notre vie et puis voilà que ils en arrivent à parler de Dieu. Et voilà que le coiffeur dit, ben moi je ne crois pas en Dieu. Et l'autre il dit, ah bon? Mais pourquoi donc? Et l'autre lui dit, ben vous savez, il n'y a qu'à sortir, vous n'avez qu'à sortir du magasin, de la boutique, là, puis vous allez voir cette misère, ces gens qui souffrent, ces malades, et puis les guerres, et puis les famines, et s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tout ça, c'est épouvantable. Et l'autre, il était un peu, vous savez, quand on nous dit ça, c'est vrai que ça fait un peu drôle, donc il était un peu à bout d'arguments, il ne savait pas trop quoi dire, donc il dit rien, sage. L'autre, il finit de couper les cheveux, il va à la caisse, il paye, il reçoit le coiffeur, il reçoit le client, bientôt, oui, vous avez un petit shampoing là, vous avez vu, il est formidable pour vos pellicules, ça serait très bien, oui, ah ben oui, mais je vais le prendre aussi, tiens, les combien, oh ben je vais payer. Puis vous avez une petite lotion là, une petite lotion, hein. Alors, bon, il prend une petite lotion, prend un petit shampoing, puis voilà, il s'en va. Le type, le client, il sort, et dans la rue, il fait 3 pas, et qu'est-ce qu'il voit? Un clochard, c'est... si vous voulez, l'équivalent au Burkina des gens qui se promènent, qui sont extrêmement pauvres, qui n'ont vraiment rien du tout, qui sont sales. Qui sont... Et alors, cet homme, il avait les cheveux sales, mais une crasse. Et même en s'approchant, on pouvait voir, il y avait des petites bêtes qui couraient dans les cheveux. Et puis, ça puait, c'était affreux. Alors, le client le regarde comme ça. Et puis, il fait demi-tour, il rentre dans la boutique du coiffeur, il dit quoi? Monsieur, je ne crois pas que les coiffeurs existent. Et le coiffeur dit, ah bon, pourquoi? Mais parce que si les coiffeurs existaient, il n'y aurait pas des gens comme ça mal coiffés dehors, hein, et puis qui puent, puis qui ont des petites bêtes, et puis qui... C'est pas possible, les coiffeurs n'existent pas. Et l'autre dit, mais bien sûr que le coiffeur existe. Il dit, ils ont qu'à venir ici, puis on va s'occuper d'eux. Il dit, ben c'est la même chose, voyez, avec Dieu. Il faut aller vers lui. Tous les problèmes, toutes les difficultés, les gens veulent faire ce qu'ils veulent. Dieu les laisse. Mais si vous allez vers Dieu, non seulement il va vous laver le cœur, il va vous aider, mais après il va vous donner des conseils, comme vous m'avez vendu un shampoing, une après-lotion, un machin. Eh bien, il va vous donner tout ce dont vous aurez besoin pour vivre une bonne vie. Vous avez compris? C'est comme ça. Mes frères et sœurs, venez à Dieu. Repentez-vous de ne pas faire ce qu'il dit. Dieu, il sait. Le coiffeur, il sait ce qui est bon pour vos cheveux. Et Dieu, il sait ce qu'il faut pour votre vie. Mais il faut aller le voir, lui. Hein, quand votre voiture tombe en panne, vous n'allez pas chez le boulanger, vous allez chez le garagiste. Voilà. Et bien, quand vous avez un problème de vie intérieure, ou un problème, il faut aller vers Dieu. Il ne faut pas dire, oui, s'il y avait un Dieu, ça n'arriverait pas. Non, allez vers Dieu. Venez à Dieu. Il prendra soin de vous. Certains chrétiens sont un peu... comme un homme qui aurait été chez le coiffeur une fois. Voilà, moi j'étais chez le coiffeur, hein, je sais qu'il existe, j'étais dans l'église, hein, je sais que Dieu existe, j'étais touché, j'ai même pleuré, j'ai levé ma main, le pasteur a dit, donnez votre cœur à Jésus, j'ai donné mon cœur à Jésus, quelques temps après on m'a baptisé, c'était formidable, je sais pas, bien sûr je sais, hein. Mais ils ont, quand vous les regardez vivre, ils ont une vie spirituelle de pouilleux. Il faut... Il ne faut pas simplement penser, voilà, ça suffit d'aller une fois comme ça. Il faut entretenir, il faut vous entretenir spirituellement. En tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça au Burkina, mais chez le coiffeur, vous ressortez rarement les mains vides, il vous donne toujours quelque chose. Eh bien, dans l'Église de Jésus-Christ aussi, vous ressortez toujours avec quelque chose, avec un conseil, avec une idée, avec une pensée, avec une valeur. Et on a besoin tous les jours, pas simplement. Moi, je me lave les cheveux tous les jours avec le shampoing de mon coiffeur. Eh bien, avec les choses que Dieu nous donne, c'est aussi tous les jours. On voudrait qu'avec Dieu, il suffise d'aller à l'église, d'écouter un message sur Internet, et puis hop, ça suffit. Non, c'est pas comme ça. Vous pensez que ça va vous mettre à l'abri de la saleté? Vous pensez que ça va vous mettre à l'abri des maladies, des infections? Et puis, il n'y en a rien qui arrive à penser que, oh, ben moi, vous savez, je peux très bien me débrouiller tout seul, j'ai pas besoin d'y aller régulièrement, juste quand je sens que j'ai besoin. Et on n'agit pas comme ça avec une personne qu'on aime et qu'on respecte. Frères et sœurs, si tu ne te décides pas toi-même de faire ce que Dieu te dit de faire, si tu vis comme ça, eh bien, ta vie, c'est normal qu'elle est désordonnée et que tu seras désorienté et que tu vas descendre peu à peu dans les régions inférieures de ta conscience, ce que j'appelle, moi, l'enfer intérieur, c'est-à-dire ces tourments qu'on a à l'intérieur, ces problèmes terribles. C'est tellement dommage d'entretenir en vous des états mentaux, dans la mentalité, hein, des états mentaux qui entretiennent vos souffrances et la souffrance des autres. Parce que quand vous souffrez, vous ne vous rendez même pas compte, mais ça fait souffrir tout le monde. Dieu, il vous a donné tout ce qu'il faut pour vous entretenir et pour vous transformer vous-même. Dernièrement, il y a un frère qui m'a écrit et il me dit: oui, j'ai fait une grande expérience avec Dieu, mais j'ai toujours mon caractère de cochon. Mon sale caractère de cochon, il dit. Ah, j'ai réfléchi à ça, je n'ai pas répondu. J'ai réfléchi à ça. Est-ce que c'est bien normal d'être un mélange d'ombre et de lumière tout le temps? On ne peut rien changer à ça? Ou est-ce que Dieu ne doit pas changer ça? Frères et sœurs, chacun de nous, nous sommes des esprits. Moi, vous ne m'avez jamais vu en réalité. Vous voyez mon corps, mais mon vrai moi, c'est mon esprit. Je suis esprit. Et mon corps, ça sert à mon esprit. Mon esprit peut aller se balader à gauche, à droite, parce qu'il est dans mon corps. Et c'est mon corps, n'est-ce pas, que vous voyez, mais ce n'est pas moi. Moi, c'est mon esprit. Et vous êtes aussi un esprit. Et je crois que personne ici, même parmi les vieux chrétiens, personne ne peut dire, moi, j'ai peu de choses encore à transformer, ça va assez bien comme ça, ça suffit, je suis paisible dans mon être intérieur, hein? Il y a des mensonges qui circulent comme ça, qui essaient de vous faire croire que nos travers, votre sale caractère de cochon, notre façon de vivre, de nous manifester, eh bien, que ces émotions qu'on a qui sont pleines de conflits, il y a ce mensonge qui circule qui essaie de nous faire croire que ça fait partie des richesses de notre personnalité, de notre vie, et que c'est le mélange de tout ça qui en fait fait ce que je suis, n'est-ce pas, une personne absolument unique. Il ne faut pas croire ce mensonge. Je vais vous démontrer. Ne croyez pas que vous devez vous accepter comme vous êtes. Non, non. Ne croyez pas que vous devez aimer vos défauts au même titre que vos qualités. Vous devez vous aimer vous-même, mais les défauts, non. Vous savez, la grande majorité des gens, ils sont malades, ils vivent une maladie chronique, ils sont des insatisfaits chroniques. C'est dommage, parce qu'ils pourraient s'améliorer en travaillant un peu leur âme, en travaillant un peu, en réfléchissant un peu différemment. Bon, supposons que je vous dise, j'ai une bonne nouvelle pour vous, les frères et sœurs. Demain, Dieu va vous faire un cadeau. Ça va être génial. Il va vous offrir une journée bien pourrie par la jalousie. C'est super, non? Hein, une bonne journée pleine de jalousie. Qui accepterait de vivre une journée comme ça, un si beau cadeau? Personne. Par contre, si je vous dis que vous pouvez passer cette même journée avec le cœur plein d'amour pour les autres et une joie, une paix magnifique, je suis certain que ça vous préféreriez. Vous voyez que souvent on est perturbé, on est affecté par des idées qui font mal, on est affecté par des colères qui nous envahissent, on a été blessé par quelqu'un, et alors on dit, si seulement je pouvais, dans ces moments-là, contrôler mes émotions. Mais c'est trop tard, c'est pas à ce moment-là qu'il faut apprendre à contrôler les émotions, c'est avant. C'est comme quelqu'un qui fait du théâtre. Nous, chez nous, à la communauté, on a une jeune fille qui s'appelle Lydie Navest, qui fait du théâtre. Elle n'arrive pas sur scène comme ça. Elle a appris son texte, elle a écouté le metteur en scène, elle a travaillé avec d'autres acteurs, elle sait ce qu'elle a à faire, ce qu'elle doit dire. Elle n'arrive pas comme ça. Et vous, vous pensez que vous pouvez arriver dans votre journée et puis faire n'importe quoi, n'importe comment, au petit bonheur, la chance. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Vous devez avoir une vie avec le metteur en scène, avec Dieu, derrière, dans le secret de votre vie, à vous. On se passerait bien volontiers de tous les tourments, n'est-ce pas ? Bien sûr que oui, qu'on s'en passerait. Bien sûr que oui, qu'on s'en passerait. Alors, pourquoi la grande majorité des gens préfèrent que dire simplement « ça fait partie de la nature humaine ». Frères et sœurs, ça fait longtemps que je vous dis toutes ces choses. Ce qui est naturel, c'est pas forcément souhaitable. Des tas de choses naturelles. Par exemple, en ce moment, chez nous, c'est la gastro. C'est naturel. C'est pas souhaitable. Il y a plein de choses comme ça. Ça, c'est ce que c'est la gastro. C'est là. On repasse pour mettre une deuxième couche. Là. C'est terrible. Mais c'est naturel. C'est la nature. Faut pas se voiler les yeux. Non, faut pas parler de ça. C'est la nature. Mais pourtant, c'est pas souhaitable. C'est pas désirable. On n'est pas ça. Et alors le péché, la colère, ben c'est bien pire. Quand on a la gastro comme ça, ben on va chez le docteur, puis il nous donne un cachet pour soigner ça. Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas du temps pour soigner notre être intérieur? Travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Pourquoi on ne ferait pas ce travail? Pourquoi vos moments de paix intérieure, de lucidité, d'amour, c'est toujours très éphémère? Pourquoi? Pourquoi ne pas croire que Dieu a raison quand il dit que votre esprit doit s'entraîner, qu'on doit travailler pour cultiver l'esprit, pour cultiver afin qu'on ait des bons moments, que nos bons moments soient plus importants que nos mauvais moments? Ça transformerait la vie de se mettre à croire autrement. On sait tous que ce serait très bien d'être gentil tout le temps, d'essayer de soulager les souffrances humaines tout le temps. Quand on fait ça, on se sent bien. Mais mes frères et sœurs, ne croyez-vous pas que la bonté, le contentement, la joie de voir les autres heureux, ne croyez-vous pas que le sentiment d'harmonie avec le sentiment d'amour pour les autres, ne croyez pas que ça nous suffirait? On n'a pas besoin de la colère, on n'a pas besoin de l'avarice, on n'a pas besoin de la jalousie pour être pleinement soi-même. Besoin, pourquoi est-ce que... Ne croyez-vous pas que la générosité, la patience, ça suffirait amplement pour occuper toute notre vie et qu'on soit... On n'est pas obligé d'être égoïste, d'être mesquin, d'être moqueur, d'être arrogant pour se sentir dans la plénitude de notre vie humaine. La Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est être rempli du Saint-Esprit? Ben c'est ça, c'est être rempli des sentiments qui étaient ceux de Jésus. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec le fait de crier, être rempli du Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec les tremblements ou autres manifestations, ça c'est la chair. Mais être rempli d'Esprit Saint, c'est avoir tous ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors, la vraie question, c'est quoi? En tout cas, on a compris que la vraie question, c'est pas est-ce que c'est désirable de changer? Bien sûr que c'est désirable. Alors, la vraie question, c'est plutôt est-ce que c'est possible de changer? Je vois tellement de chrétiens qui viennent me trouver en confession ou qui viennent me trouver pour parler en privé et puis qui me disent qu'ils ne sont pas vraiment satisfaits parce qu'ils n'ont pas été changés. On leur a prêché l'évangile en leur disant « Venez à Jésus, vous aurez la paix, la joie, le bonheur, il va changer votre vie. » Et puis, au bout de quelques temps, ils s'aperçoivent, ils ont cru ça au premier degré, et puis ils s'aperçoivent, finalement, bon, j'ai abandonné deux, trois petits trucs, mais je ne suis pas vraiment changé. Venir à Jésus, c'est quoi? Venir à Jésus, c'est décider de le suivre jour après jour, de le suivre comme un maître. et principalement comme un maître à penser, parce que s'il y a une chose que vous faites sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, c'est de penser, et ça, il faut que Jésus soit le maître de ça. Alors, si on ne lui est pas soumis, ben on ne va pas changer, mais par contre, si on se met à être soumis à sa façon de penser, à ce qu'il dit, alors on changera. Ce n'est pas lui directement qui va vous changer d'un petit baguette magique, pas du tout, pas du tout. C'est notre fidèle obéissance qui va réduire nos mauvais côtés, petit à petit, ça va les réduire, tout petit, tout petit, tout petit, puis ça va finir par disparaître. C'est ça son œuvre. Son œuvre en nous, c'est le fruit de notre obéissance. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas que Jésus arrive et vous change comme ça. Nos traits de caractère restent absolument les mêmes. Je suis toujours Michel Janton, toujours. Et si je ne fais rien pour changer ça, je serai toujours Michel Janton, le même, hier, aujourd'hui, éternellement, tout le temps. Non, je ne veux pas, parce que ce Michel Janton-là, il a des côtés que je n'aime pas du tout. Si vous laissez vos mauvaises dispositions, vos automatismes négatifs se maintenir en vous, rien ne va changer en vous, rien. C'est vous, c'est à chacun de vous de se mettre au travail, à travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. C'est vrai, mais réfléchissez un peu. La connaissance, c'est comme l'argent. C'est ni bon ni mauvais. Ça dépend ce qu'on fait avec. J'explique. Plus vous allez connaître Jésus, plus vous allez connaître sa parole, plus la lumière vient sur vous. L'intelligence, la lumière, le savoir-faire, le savoir-vivre. Jésus, il éclaire tout, il met tout en lumière, tout devient clair, tout, on commence à comprendre. Mais cette faculté de connaître la vérité, sur vous-même, sur les autres, sur la nature, sur tout, eh bien, ça ne vous affecte ni en bien, ni en mal. C'est comme un rayon de lumière qui vient, par exemple, pour éclairer un visage haineux. Il y a un spot là, ça m'éclaire. Ou un visage souriant. C'est comme un rayon lumineux qui éclaire, par exemple un diamant ou une poubelle. Le rayon lumineux. Ça met en lumière, on voit, on connaît. Voilà, c'est là, c'est ça. La lumière, c'est ni bien ni mal, c'est ni propre ni sale. Ça vous montre la réalité. Et alors, à partir du moment où vous voyez, vous pouvez travailler. C'est une poubelle, ah, vous dites, ah bon, je ne pensais pas que c'était comme ça. Alors vous allez commencer à changer les choses. C'est ça, travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Vous êtes sauvés. À partir du moment où vous avez fait la paix avec Jésus, vous êtes repentis, vous avez été baptisés, vous êtes sauvés, vous croyez dans la résurrection, vous êtes sauvés, vous aimez la parole de Dieu, c'est bien. La lumière est venue. Vous savez où vous allez, vous savez que vous allez aller au ciel, vous n'allez pas aller en enfer, vous êtes sauvés de l'enfer, vous êtes en chemin. Et sur ce chemin, vous avez le mode d'emploi, la Bible, qui vous aide à vous transformer vous-même, à transformer vous-même les choses qui doivent être transformées. Dieu est avec vous pour ça. Dieu est avec vous et il va renouveler vos forces quand vous serez un peu fatigué de travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Mais c'est à vous de vous détourner de la méchanceté, des mauvaises compagnies, de ce qui vous nuit, de la sainteté du péché. C'est à vous, avec son aide, n'est-ce pas? Parce que sans lui, vous ne pouvez pas. On a essayé avant, on ne pouvait pas. Mais maintenant que nous sommes avec lui, tout est devenu possible. Mais surtout, ne croyez pas que votre transformation arrivera d'une façon miraculeuse parce que vous avez prié ou parce que vous avez jeûné. Ça n'existe pas. C'est à vous de travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Ce salut a coûté cher à Jésus, c'est pourquoi vous devez craindre. Pourquoi craindre? Il y en a qui disent, oh, c'est avoir un saint respect. Bien sûr qu'on doit avoir un saint respect, mais aussi de la crainte, mes frères et sœurs. Craindre de rester sale. Et craindre de rester sale jusqu'au point que finalement on subisse les conséquences de notre iniquité. On va lire Luc 12, 4, 5. Écoutez bien, c'est Jésus qui parle. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. C'est qui tue le corps? C'est les assassins, c'est les coupeurs de route, c'est les méchants, c'est les démons. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. C'est qui ça? n'est pas le diable, c'est Dieu que vous devez craindre. C'est lui qui a le pouvoir de vous jeter dans la gêne. C'est lui qui a fabriqué la gêne pour y jeter le diable et tous ceux qui servent le diable. Et c'est pourquoi vous devez le craindre, parce que si vous ne vous transformez pas, si vous ne travaillez pas votre salut avec crainte et tremblement, c'est ce qui va vous arriver. Crainte. Craindre la puissance de Dieu, la majesté de Dieu, craindre la colère de Dieu aussi. Ésaïe 6, 1 à 5, je voudrais qu'on le lise. Et venez pas me dire que c'est simplement le Nouveau Testament et que ça n'a plus à voir avec aujourd'hui. Ésaïe 6, 1 à 5, écoutez bien. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Je dis alors « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Vous voyez, il avait la crainte de l'Éternel. Il avait conscience, le prophète Ésaïe, il avait conscience de l'impureté de ses lèvres. C'est-à-dire ce qu'il disait, mes frères et sœurs, il ne faut pas penser, voilà, alléluia, je suis sauvé, je peux me faire n'importe quoi. Non, non, non. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ainsi, vous accomplirez la volonté de Dieu. Ainsi, vous aurez du bonheur pour votre propre vie. Et ainsi, vous apporterez du bonheur autour de vous aussi. Parce que c'est beaucoup plus agréable de fréquenter quelqu'un qui aime Dieu, qui marche droitement, que de fréquenter un chrétien qui vit comme un crétin, comme un cornichon, comme une saleté, comme quelqu'un à qui on confierait pas son portefeuille, parce que, bon, il dit qu'il est chrétien, mais entre ce qu'il dit et ce qu'il vit, c'est deux choses. Vous voyez ce que je veux dire? Rendez gloire à Dieu, rendez-vous heureux et rendez les autres heureux en travaillant avec crainte et tremblement à votre salut. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur Jésus, je te prie de bénir mes frères et sœurs, de bénir chacun qui écoute, qui regarde ce message, qui l'écoute sur Internet. Merci pour ceux qui le regardent à la télé. Merci pour mes frères et sœurs qui sont là devant moi ou à la chapelle. Bénis chacun d'entre nous. Aide-nous à prendre au sérieux ces choses, afin que nous nous mettions, pour ceux qui n'y sont pas encore, au travail, sérieusement, pour transformer toutes ces choses qui doivent être transformées et qui ont beau être naturelles, qui ne sont quand même pas très souhaitables. Merci Jésus. Amen. Amen. À bientôt. Dieu vous bénisse. Bientôt, je suis chez vous, Burkina. À bientôt.